Europe 1. François Geffrier.
9h38, vous êtes bien sur Europe 1, place à l'interview culture d'Europe 1 maintenant. François Geffrier, avec un auteur de bande dessinée ce matin.
Bonjour Arnaud Delalande.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Nous sommes le 25 août 2019. La ville de Paris a été libérée de l'occupation allemande il y a pile 75 ans, 25 août 44. Mais avec vous, nous allons remonter encore plus tôt dans l'histoire, au début de cette Seconde Guerre mondiale que vous racontez en BD avec votre co-scénariste Hubert Prolongeau et le dessinateur Eduardo Ocaña. Ça s'appelle Face à face Hitler-Staline, publié cette semaine. On va donc suivre le pacte puis la guerre entre l'Allemagne et l'URSS. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette approche avec ces deux personnages?
Bah d'abord, il s'agit de la mise en route d'une collection, en fait. Il s'agit en effet de face-à-face historique. Donc, quand on dit face-à-face, ce sont des duels, pas forcément physiques, naturellement, ça peut être des duels politiques.
À chaque fois, des oppositions, en tout cas.
Des oppositions, des rivalités politiques, stratégiques, géopolitiques, artistiques, intellectuelles. Donc, on ouvre le bal avec deux titans monstrueux que sont Hitler et Staline. Et puis, on va enchaîner avec Jésus-Pilate dans quelques mois. Et potentiellement, ensuite, avec Danton Robespierre. Voilà. Danton Robespierre. Louis XIV, Fouquet.
Et alors pourquoi ces deux personnages, vous disiez monstrueux, effectivement c'est des personnages, on peut le dire, du XXe siècle, mais aussi des personnages, c'est pas des héros quoi.
En fait on a affaire à deux grands psychopathes qui sont hissés à la tête d'États extrêmement puissants. Donc si vous voulez, on a voulu raconter ce duel parce que c'est l'un des plus atroces, sinon le plus atroce de l'histoire de l'humanité, puisqu'il se solde par environ 30 millions de morts, si vous voulez, sur le front de l'Est, entre l'URSS et l'État nazi. On a l'affrontement effroyable de deux totalitarismes, qui est quand même l'une des plaies béantes du XXe siècle et de l'histoire de manière générale.
Alors rappelez-nous déjà au départ, pourquoi est-ce que, on commence par ce pacte germano-soviétique, pourquoi est-ce qu'Hitler a besoin des soviétiques?
Il en a besoin d'abord pour se couvrir à l'Est, il redoute d'avoir un allié, d'avoir un ennemi plutôt puissant dans son dos, donc il préfère assurer la prise de ce côté-là, le temps d'envahir l'Europe de l'Ouest, et donc, au départ, il s'agit d'une considération tout à fait stratégique.
Ça devait être un peu la clé de leur invincibilité à tous les deux.
Dans un premier temps, mais Hitler très tôt quand même se doute, il a quand même écrit Mein Kampf, il ne faut pas l'oublier, où il accuse la juiverie, le bolchevisme international, etc. Donc il voue déjà une haine sans merci aux soviétiques, simplement il est pragmatique et donc il s'agit pour, dans un premier temps, de pouvoir assurer la conquête de l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Angleterre, qui va être justement le point de rupture, si j'ose dire, et puis donc en se couvrant de l'autre côté.
Est-ce que ça veut dire que dès le départ, ce pacte était bidon? Est-ce qu'il y avait un ver dans le fruit ou non au départ? Il y avait une forme de sincérité?
Non, c'était davantage, en effet, des considérations tactiques, très certainement. Donc, ce pacte qui va être très vite considéré comme un chiffon de papier, de la même façon que les accords de Munich.
Alors, il y a des choses qu'on apprend, pour en venir au front de l'Ouest, là, du côté bataille d'Angleterre, que les nazis ont eu du mal à concrétiser, parce qu'ils se sont retrouvés face à un mur. Alors, on apprend notamment qu'Hitler a fait appel à un mage pour faire arrêter la pluie sur l'Angleterre.
Oui, c'était un épisode authentique, ça, mais vous savez que, on va pas, c'est peut-être pas tout à fait l'objet ici, mais il y a aussi une dimension ésotérique du personnage de Hitler, des liens lointains avec Chamberlain, la Golden Dawn, etc. Enfin, il y a tout un versant un peu ésotérique. Mais disons que ça illustre aussi des aspects un peu névrotiques et fous du personnage. Mais au-delà, évidemment, avec la campagne d'Angleterre, ce qui est déterminant, c'est que Staline va commettre une erreur absolument fatale parce qu'il va penser que Hitler ne se retournerait jamais contre lui tant qu'il n'en a pas fini avec l'Angleterre. Et alors, mais du coup, il est surpris et c'est d'autant plus étonnant parce qu'il y a une dimension qu'on voit très bien, je pense, dans la bande dessinée, qui était assez hallucinante, c'est le déni de Staline face à Hitler,
alerté
qui
est par ses services.
Pas un ami.
Parlez-nous un peu de cette opération Barbarossa, donc l'envahissement de la Russie soviétique par l'Allemagne nazie. En quoi elle consiste d'un point de vue opérationnel, les chars, les avions, les hommes?
C'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est même le plus grand engagement terrestre de l'histoire de l'humanité. Alors je ne vais pas vous asséder tous les chiffres, etc.
Non mais ils vont jusqu'à rétablir un écartement des voies de chemin de fer en Russie pour que les trains allemands puissent passer.
Ils sont obligés de changer l'écartement des voies de chemin de fer pour pouvoir faire avancer. Et donc ils attaquent en juin, il y a même eu un petit différé parce qu'Hitler voulait attaquer un peu plus tôt. Et il veut essayer de jouer ça comme il l'a joué en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire avec la Blitzkrieg.
Exactement.
Et il va tomber dans le même panneau, si j'ose dire, que Napoléon auparavant et tout ça, c'est-à-dire l'extension du territoire hallucinante, la difficulté de progresser, les tirs des partisans sur les arrières, les lignes de communication qui flanchent. Bien qu'au départ, il y a des opérations de la Luftwaffe, ils clouent les avions soviétiques au sol, leur armement militaire est assez déclassé. Staline, en plus, toujours paranoïa galopante, a eu la bonne idée de décapiter à peu près tous les cadres de son armée.
Il a plus d'armée, il a plus de généraux, de maréchaux, ont tous été fusillés, déportés.
et avec son sens poétique habituel, il les a tous liquidés. Donc il n'y a plus personne, et donc ça va être un énorme problème pour l'URSS de remettre en route la machine industrielle, au point qu'il va déménager les industries de l'Oural. Ça aussi, c'est un
ça, il faut le raconter.
Titanesque.
Ils ont déménagé comme ça des usines.
Des usines, mais des millions de pièces, d'hommes, etc., qui sont partis quasiment en plus au moment de l'hiver, pour pouvoir être réinstallé ailleurs, pour sauver les centres industriels, pour relancer la production de blindés.
Donc une fois de plus, c'est un peu la politique de la terre brûlée, où les nazis progressent sur un territoire où il n'y a plus rien.
Oui, voilà. Alors,
il
progresse. Et puis, au départ, l'intention d'Hitler, c'est justement d'attaquer. Il y a un débat, d'ailleurs, dans l'état-major allemand, parce que certains veulent aller directement frapper à Stalingrad ou Moscou pour des raisons évidentes. Et Hitler dit non, il faut d'abord aller au centre industriel, parce que si on tient l'industrie, ils seront morts. Il n'a pas tort, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et donc, la machine s'emballe. C'est en effet l'opération Barbarossa, le plus grand engagement terrestre de l'histoire de l'humanité. Et puis ensuite, eh bien, il va tomber dans ce fameux panneau de l'hiver russe, c'est-à-dire que la saison des boues d'abord, et qui fait donc les chars s'enlisent, il commence à y avoir des problèmes de transmission, de ravitaillement, etc. Puis ensuite, l'hiver.
C'est une bande dessinée, évidemment. Il y a ce dessin, on voit les chars soviétiques, les chars allemands qui sont assez fidèlement, a priori, reconstitués. Comment est-ce que vous vous êtes basé là-dessus? C'est pas vous le dessinateur, évidemment, c'est Eduardo Ocaña, mais comment est-ce que vous avez mis en image et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une BD?
C'est-à-dire que quand vous êtes au Moyen-Âge, si vous voulez, ou sous l'Antiquité, les photos sont rares. Alors que là, on a quand même beaucoup, beaucoup de ressources documentaires, visuelles, alors certes beaucoup en noir et blanc aussi, mais enfin, il y a eu des versions colorisées, etc. Disons que ce n'est pas le matériel documentaire qui manque, surtout sur des enjeux de cette importance. Donc le dessinateur Eduardo Ocaña n'a pas eu trop besoin de nos services à ce niveau-là pour trouver les ressources nécessaires en termes documentaires ou visuels.
Cette BD fait pas mal réfléchir, ça s'appelle donc Face à face Hitler-Staline. Arnaud Delalande, vous en êtes l'un des auteurs avec Hubert Prolongeau et Eduardo Ocaña, une BD qui vient de sortir. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1 et bonne journée.
Je vous en prie, bonne journée.
Bon week-end.